Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Immo. Alors Carrément Immo, vous le savez, c'est l'émission dans laquelle les regards se croisent, les invités, deux invités chaque semaine viennent discuter de leur expertise et ils sont toujours complémentaires. Et bien c'est le cas aujourd'hui encore une fois, puisque je reçois Delphine Hermant. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors vous êtes directrice de la marque et de l'offre Guy Hoquet. Voilà, on est ravis de vous recevoir et avec vous, Mathieu Cruc. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors vous êtes directeur général de BrainSonic. BrainSonic, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une agence de communication 360 et on s'est spécialisé dans tout ce qui est intelligence artificielle depuis maintenant 3 ans.
Voilà, d'où l'objet de votre partenariat, l'intelligence artificielle. Ça va être le sujet de notre émission, le sujet phare, puisque Guy Hoquet, on le sait, vous êtes toujours à la pointe de l'innovation. Je vous avais reçu avec Stéphane Fritz, le président pour les startups. Voilà, vous organisez plein de choses en interne. D'ailleurs, on voit passer plein de choses sur les réseaux sociaux. Bravo. Alors, expliquez-nous cet intérêt que vous avez pour l'intelligence artificielle.
Alors, c'est au-delà d'un intérêt pour l'intelligence artificielle, c'est l'intérêt pour ce que l'intelligence artificielle permet de faire et de gagner pour essayer d'être toujours meilleur vis-à-vis de notre réseau et vis-à-vis des clients finaux. C'est pas un gadget, l'intelligence artificielle. On n'a pas adopté l'intelligence artificielle pour dire qu'on en faisait, comme ça peut être le cas parfois. C'est pas un sujet de communication. Ce qu'on a vu dans l'intelligence artificielle, c'est l'opportunité de booster notre formation, qui est incluse dans la redevance chez Guy Hoquet pour les franchisés, donc qui est illimitée pour les collaborateurs et les franchisés, parce que via l'intelligence artificielle et le travail qu'on réalise avec BrainSonic, on peut produire des modules de formation en très très grande quantité et de façon extrêmement réactive sur ce marché très réglementé et qui change très souvent.
Et donc une économie aussi, des coûts en moins, et c'est non négligeable vu la période.
Exactement. C'est aussi une façon effectivement d'optimiser les coûts, ouais, pour pouvoir produire plus et mieux.
J'imagine que ça va plaire aux franchisés d'ailleurs.
Oui, a priori ça démarre bien.
Alors expliquez-nous, votre rencontre, comment ça s'est passé? Je veux tout savoir.
Alors en fait ça s'est fait de manière un peu fortuite. Nous on a travaillé, donc comme je disais, on a commencé à utiliser tout ce qui était intelligence artificielle pour les métiers de la communication maintenant il y a 3 ans.
Donc précurseur un petit peu. Hein.
Plutôt précurseur, j'aime bien dire. Si pour le grand public, ChatGPT c'est l'an 0, on a démarré un peu avant. Parce que convaincu que globalement l'IA allait perturber énormément les métiers de la communication, donc ouais, qui est là où on gagne de l'argent. Et que soit on surfe sur la vague pour trouver et imaginer la valeur de demain, soit on se prend la vague et c'était pas trop l'ambiance.
Et ça fait mal.
Voilà, donc on a plutôt opté pour la première partie.
Ouais.
Et donc, on a eu une approche qui était assez holistique à l'agence, c'était de se dire, on va pas être que un studio créa ou que telle chose ou telle chose. On a voulu embrasser tout ce qui était possible dans l'IA, donc avec une approche qui était d'expérimenter tout ce qui sortait. Donc ça a demandé énormément d'investissement en temps et en argent d'ailleurs. Et parmi cela, on a retenu aussi des choses sur lesquelles on était un peu plus seul, qui étaient donc les avatars. Convaincu que ça allait répondre notamment à plusieurs besoins. Le premier, c'est qu'il y a un enjeu d'incarner dans la communication qui est de plus en plus fort. Alors on le voit bien sur TikTok, sur les réseaux sociaux, les gens se mettent en scène, hein, concrètement. Et il y a des gens qui sont nés pour ça, et puis il y a des gens qui sont moins nés pour ça. Soit ils aiment pas, soit ils ont pas le temps. Et puis de toute façon, ça veut dire que vous filmez, il y a un caméraman, ou alors vous filmez tout seul. Bref, c'est assez chronophage.
Ah, mais c'est très chronophage.
Ça peut coûter de l'argent, etc. Donc il y a ce besoin-là d'un côté, et de l'autre, il y a un besoin effectivement de multiplier effectivement les formats parce que l'incarnation marche mieux quand on veut transmettre de l'information. Donc on s'est dit que s'il y avait une opportunité, donc on s'est spécialisé là-dessus et donc on a fait plein de projets. On a fait parmi les premiers vœux en IA avec de l'avatar avec Michel-Edouard Leclerc, ce qui nous avait permis d'avoir une petite notoriété là-dessus. Et on a fait un média avec un journaliste qui s'appelle Thomas Huchon qui lutte contre la désinformation et on est passé à C'est à vous sur la 5. Et pour parler de ce média, et coup de bol, Delphine regardait l'émission ce soir-là. Et le lundi, j'étais convoqué dans le bureau de Stéphane Fritz pour expliquer pourquoi. Oui, ça a été très vite. J'étais le premier surpris. Je lui ai dit, tiens, c'était un bon passage télé, bien efficace.
Comme quoi, c'est rentable hein, de passer.
Exactement. J'appelais Thomas, je dis merci.
Dans les médias.
Mais du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et le besoin était hyper clair. Nous, on avait déjà de l'expertise dessus. Et en fait, très vite, on a fait d'époque. Et ça a été convaincant. Et c'est parti.
Juste petite question, il n'y a eu que Guy Hoquet qui ont voilà qui vont contacter à la suite de cette émission, ou il y a eu d'autres marques?
Alors non, il y a eu plusieurs marques. C'est l'énorme différence, c'est que beaucoup de marques c'était pour beaucoup de marques c'était encore un peu pionnier, un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on est des avatars, les personnes n'existent pas. Enfin, il y a tout un tas de questions.
Il y a de la pédagogie.
Il y a de la pédagogie, les fake news, tout ça, donc ça fait peur. En fait, avec Guillaume, ce qui était très bien, c'est que tout de suite il y a eu un enjeu de nous, on a un besoin, ça répond aux besoins, passons à l'échelle. Ouais. Donc en fait, nous on fait avec pas mal de marques aujourd'hui des passages à l'échelle, mais le cycle d'adoption était plus lent.
Alors donc que là, le besoin n'a pas changé. C'était un territoire conquis, on va dire. Vous étiez dans un territoire conquis.
Exactement. Et quelque part, il y a aussi c'est plus rassurant d'avoir un premier, ce qui fait qu'aujourd'hui les marques sont rassurées par le fait que Guy OK est passé à l'échelle. Ça prouve que c'est possible, que ça marche, que sans jeu de mots c'est OK.
Petite blague du jour d'ailleurs, parce qu'on est le 1er avril. Guy OK.
Voilà, c'est validée. Tout le sujet des premiers. C'est dur de trouver un premier parce que être premier, ça fait peur.
Bien sûr.
Et maintenant, les autres suivent.
Alors Delphine, vous êtes devant votre télé un vendredi soir, vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites en tant que directrice de la marque justement? Vous dites tiens, ça c'est pour nous. Comment ça s'est passé dans votre tête?
Ouais, je me suis dit ça c'est pour nous, j'ai vu la façon dont Mathieu et son équipe avaient travaillé sur l'avatar de Thomas Huchon et la façon dont ça lui faisait gagner du temps pour pouvoir être réactif sur le débunkage de fake news. Et nous on cherchait justement un moyen de produire des modules de vidéos qui sont très très courts mais du coup en très très grande quantité pour notre plateforme d'e-learning propriétaire. L'idée, c'était de se dire, nous, on a segmenté la formation par ce qu'on appelle des gestes, savoir dire non à une demande de visite, comment me préparer pour ma prospection, comment faire de la pitch téléphonique, etc., sur des modules qui ne doivent pas faire plus de 2 minutes de vidéo. C'est-à-dire, on s'adapte à la façon dont l'information et la formation sont consommées aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend à cuisiner sur des reels d'Instagram, on apprend à changer un pneu sur un tuto YouTube. Et nous, on s'est dit, on doit adapter notre e-learning à ça. Maintenant, comment on fait? Puisque en segmentant la formation par geste, on a créé des centaines de gestes en transaction, en gestion locative, en management, en communication, en rénovation énergétique, en financement, etc. L'avatar, je me suis dit, c'est peut-être un moyen d'aller produire en plus grande quantité, de façon plus rapide, potentiellement plus économique, comme on le disait à l'heure, et d'être aussi extrêmement réactif sur le marché.
Donc plus agile,
Ouais. On a vraiment ce souci-là de se dire comment est-ce que la technologie peut nous permettre de faire mieux en réalité et de fluidifier notre façon de travailler et notre façon de délivrer du service.
Oui, parce qu'avant, comment ça se passait en fait? Dès qu'il y avait une nouveauté, je sais pas, une nouvelle mesure, vous deviez tourner, installer un studio, faire venir quelqu'un. Enfin,
Oui, on devait même louer un studio, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de studio propriétaire Guy OK. Aujourd'hui, on a un studio au siège. Quand bien même on a un studio au siège, il faudrait effectivement un caméraman, il faut rédiger des textes assez longs, éventuellement avoir un support, prendre pourquoi pas un comédien ou un formateur, mais c'est donc un être humain qui va peut-être se fatiguer un moment, qui donnera moins l'intention, encore moins s'il ne connaît pas le métier, ce qui était le cas avant. On avait ou des comédiens ou du motion design en réalité. Donc c'était pour produire un module, il fallait un grand nombre d'heures et des coûts qui se comptaient plutôt en milliers d'euros. Là, on est revenu à le gros du travail, c'est d'écrire ce fameux script, le contenu, pour qu'il soit adapté au tournage de l'avatar, avec les respirations, avec les mots sur lesquels il doit insister, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, comme le disait Mathieu, on est passé à l'échelle sur ce sujet-là. Donc en réalité, aujourd'hui, une fois que BrainSonic récupère le contenu, en quelques heures, et je pèse mes mots quand je dis quelques heures, on a la possibilité d'avoir un module en ligne. On l'a fait sur MaPrimeRénov qui a été changée le 5 décembre dernier. On a récupéré le texte du journal officiel à 8h le matin. On l'a mis dans la machine, on a rédigé un script. À 14h, le module était en ligne et à disposition des 3000 collaborateurs du réseau.
Mathieu, c'est combien de temps justement pour produire une vidéo comme ça, allez, on va dire de 5 minutes, une vidéo de formation, si l'avatar est déjà fait, si vous avez déjà tout, Delphine vous envoie un texte, c'est combien de temps de production?
Alors là, en fait, on va séparer ce qu'on va appeler le temps de génération, donc c'est le temps de calcul par l'IA, pour faire simple.
Ouais.
Et après, il y a un peu de temps de post-production. Et en fait, j'allais dire, toute la magie de la chose tient curieusement moins dans l'IA que dans la petite couche de post-production qui permet, elle, de gommer les quelques imperfections de l'IA et donc d'avoir un truc parfaitement naturel. Aujourd'hui, on n'est pas encore au stade où, sans intervention de personne, c'est
nickel,
parfait.
Quoi, ouais.
Mais en fait, c'est pas grave, puisque globalement, le temps d'intervention, il est de l'ordre de moins d'une heure. Donc en fait, mais c'est le temps nécessaire pour faire le petit changement de plan, la petite imperfection, et faire le changement de d'arrière-plan. Donc ça reste, c'est moins de... Si on ne fait que ça, allez, en 2h30, on a un module de 3 minutes, 4 minutes qui est réglé et qui peut sortir.
Et donc, hyper rapide. Et pour vous, c'est un gain de temps incroyable, Delphine, j'imagine.
Oui, extrêmement rapide. C'est extrêmement fluide aussi, ouais. Y compris dans la façon de travailler avec Brainsonic, parce que c'est aussi une question d'équipe et de partager la vision et le projet. Mathieu disait effectivement que ça avait peut-être été un peu plus facile pour eux parce qu'on avait un besoin. On était venu les voir avec un besoin qui était identifié. Donc, on a mis peut-être moins de temps que certains clients à adopter l'idée de l'IA, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que Mathieu et ses équipes ont tout de suite compris le besoin, le bénéfice, l'importance du projet pour nous, parce que la formation, elle est quand même au cœur du modèle de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on se nourrit les uns et les autres de, eux sur la partie technique, nous disant, l'IA aujourd'hui nous permettrait de faire ça, ça, ça et ça, est-ce que ça peut être intéressant pour vous? Et aujourd'hui, on est en train de créer un moteur de recherche ensemble conversationnel qui va permettre de répondre aux collaborateurs directement à partir du savoir-faire de Guy Hoquet sur un téléphone par la voix. Mmh. Et on est vraiment en train d'avancer ensemble là-dedans.
Mmh. Vous voulez rajouter
quelque chose ? Non, et en fait, c'est je pense la bonne approche aujourd'hui sur l'IA, ce qui fait que il y a une vitesse sur l'IA qui n'a pas d'équivalent. Ce qui fait que j'étais à des confs la semaine dernière, les gens disent oui, mais c'est trop rapide. Mais en fait, ça va encore s'accélérer.
Donc en fait, qu'est-ce qui est trop rapide ?
Les évolutions de l'IA.
L'évolution, ouais.
Parce que en fait, chaque évolution apporte son lot d'impact sur la manière dont on fait les choses. Et en fait, c'est très perturbant. Donc face à ça, il y a deux postures. Je suis pas au courant, je m'en préoccupe pas. J'ai peur, je refuse. Ou je vois le bénéfice et je crée de la valeur. Aujourd'hui, il y a un enjeu de réactivité, ce qui fait qu'on sait très bien que les modules que l'on fait, on pourra faire mieux dans 3 mois. Mais en fait, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de mettre l'entreprise en mouvement pour que dans la manière de penser, on pense en mode IA. Moi, ce que j'appelle souvent, c'est la pensée, le « et si ». Et on pourrait peut-être faire ça. Et puis, des fois, on peut. Des fois, on peut pas. Des fois, on peut pas maintenant, mais on pourra demain. Et donc, penser comme ça, en fait, ça force à changer l'organisation et la manière que l'on a d'exercer le métier, qui va être bouleversé, j'en suis convaincu. Et les évolutions, même récemment...
Les métiers. Plein de métiers.
Tous les métiers. Tous les métiers vont être bouleversés. Et je pense que ça va être encore même plus rapide que les prévisions qui étaient très optimistes dessus.
Alors, c'est un autre débat, mais est-ce que ça va être dramatique selon vous? Est-ce qu'il faut s'attendre à plein de suppressions de postes?
Je pense que ça va pas se passer exactement comme ça.
Parce qu'on a besoin encore de l'humain, c'est ce que vous disiez.
Oui, alors mais
en moins quand même.
Alors oui, mais je pense qu'on a besoin de manière très crue de moins de gens pour faire la même chose. La question étant, parce que les gens sont là, il y a une nouvelle valeur à imaginer qu'on n'envisageait pas avant parce que tout le temps était mis sur faire des tâches d'avant. Si on prend l'exemple de la communication, quand on passe d'une campagne créa qu'il fallait 5 jours mettons d'exécution à ChatGPT peut faire à peu près la même chose en 2 minutes, c'est pas pendant 4 jours et demi, les gens vont à la plage. La question c'est, puisque maintenant le temps moyen pour faire ça c'est 2 minutes, quelle valeur crée-t-on dans le temps que nous avons? Et c'est pas juste dans l'absolu, c'est les clients vont monter en compétences, tout le monde va monter en compétences, et donc il y a une nouvelle manière d'appréhender la chose et une nouvelle valeur qui sera à rémunérer, à valoriser, qui va exister. Et ce questionnement-là, on l'a quand on pratique beaucoup. Si on ne pratique pas, on ne voit pas ce qui arrive. Et puis un jour, on se réveille un matin et puis on se rend compte que ChatGPT fait globalement ce que l'on faisait. Et si on n'est pas préparé, ça peut être choquant. Et comme en fait, on est dans un système, les écoles se mettent, vont s'adapter, le service public va s'adapter, les annonceurs vont s'adapter, les agences vont s'adapter.
Le service public, ce serait bien.
Oui.
Ce serait même très bien.
Les freelances vont s'adapter. Donc en fait, tout le système va s'adapter.
Ouais.
Donc en fait, pour participer activement et créer cette nouvelle valeur, il faut conscientiser ça, expérimenter et être dans cette mise en mouvement.
D'ailleurs, c'était une annonce de la ministre du Logement mettre en place un peu plus d'intelligence artificielle au ministère notamment. Delphine, comment ça a été pris en interne? Comment, au sein du réseau, au niveau des franchisés, c'est vrai qu'on parle de ces réactions, Mathieu les a très bien énumérées. En interne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça en effraie certains? Est-ce que tout le monde l'a accueilli les bras ouverts, cette introduction de l'IA?
Alors, l'introduction de l'IA au sens des avatars et des modules qu'on a produit, en réalité, c'est transparent pour un apprenant. L'apprenant qui va sur la plateforme d'e-learning, qu'on lui dise que la vidéo a été tournée par le formateur, puisqu'on a tourné les avatars des formateurs qu'il retrouve en présentiel. Qu'on lui dise que c'est Cédric qui a tourné la vidéo ou que c'est l'avatar de Cédric qui fait la vidéo, en réalité, si on ne vous le dit pas, vous voyez très, quasiment pas la différence. Donc, dans la façon de recevoir l'apprentissage, il y a pas d'impact particulier pour eux. Là où nous, on voit un impact très clair, c'est que l'année dernière, sur la plateforme, sur l'ensemble de l'année, on avait à peu près 600 modules qui avaient été consommés de formation. Mmh. Et là, sur les deux premiers mois de l'année, on est déjà à 1500 modules. Donc en fait, D'accord. On voit tout de suite la façon dont c'est adopté et dont ça fonctionne, là pour le coup, en termes de consommation.
Et alors, qu'est-ce que ça engendre justement, cette consommation qui est augmentée? Qu'est-ce que ça engendre factuellement au niveau des résultats des agences, par exemple, au niveau... Est-ce que vous avez de la data un petit peu par rapport à ça?
Oui, on a de la data. Alors, il faut voir aussi qu'on l'a intégré aussi à nos formations en présentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le parcours d'intégration du consultant, qui est le parcours d'un consultant qui vient d'arriver dans le réseau et qui n'a jamais fait le métier, par exemple, il a des sessions en présentiel. Et pour pouvoir obtenir sa certification à la fin, il doit aussi avoir validé un certain nombre de modules sur la plateforme d'e-learning. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bien sûr, on voit des résultats, notamment une grande consommation des modules liés à la pige et à la prospection. Une grande demande, parce qu'on a fait un questionnaire auprès du réseau en fin d'année pour voir quels sont les sujets, quelles sont les questions qu'ils aimeraient poser à la plateforme, s'ils pouvaient poser toutes les questions. Il y a quand même à peu près 80% des questions qui ont été demandées qui sont juridiques. Donc on est en train de nourrir la machine d'énormément...
Donc il y a un besoin à ce niveau-là,
en tout cas. De droit d'urbanisme, de droit loi Hoguet,
de droit patrimonial. Mais c'est pas étonnant, c'est ce qu'on disait, voilà. Ça évolue tellement, il y a tellement de bouleversements à ce niveau-là que forcément...
Et donc effectivement, notre rôle, c'est d'être au rendez-vous de ces demandes-là, de nourrir suffisamment la machine pour ça et pour faire en sorte que maintenant qu'on va avoir un moteur de recherche, elle puisse répondre de cette façon-là, de façon précise et à jour, ce qu'on disait, sur la base du savoir-faire guilloqué, sur la base des informations qu'on va y mettre. Et donc, a priori, plus on va être pertinent dans la façon dont on va le nourrir, plus on va être consommé et donc plus la plateforme et les modules vont être consommés.
Mmh. Puis c'est hyper bien pour récupérer des insights, c'est-à-dire que les gens poser des questions de leur manière, avec leur langue, avec leurs mots. Mmh. Et donc, en fait, si à un moment on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé a priori, le fait qu'il pose la question et qu'en fait il n'y a pas forcément de réponse, en fait très vite on peut se dire il y a un manquement, faisons un vidéo.
Est-ce que vous récoltez toutes les questions
Bah oui, et du coup, et le lendemain ou le surlendemain, le module associé au manquement peut être produit.
Alors attention aux questions du coup que les franchisés vont poser, hein, ne vous permettez peut-être pas tout. Question sur le script, quand vous disiez il faut l'écrire d'une certaine manière, c'est-à-dire il faut marquer respiration, enfin il y a vraiment une façon d'écrire pour nourrir l'avatar?
Alors oui, je vais vous donner un exemple très simple. On avait un petit gimmick à la fin des modules qui était c'est sur le terrain que ça se passe. Quelque chose qu'on aime bien chez Guilloqué, notamment parce que ça incarne la vision de Stéphane Fritz. Et donc, au démarrage, les premiers tests qu'on a fait, moi j'ai écrit « c'est sur le terrain que ça se passe » en français, en bon français. Donc, qu'est-ce qu'a dit l'avatar? L'avatar a dit « c'est sur le terrain que ça se passe ». C'était absolument pas naturel.
Ah oui.
Donc il y a une façon d'écrire, donc si on veut qu'ils disent c'est sur le terrain, il va bien falloir mettre des apostrophes. Il y a effectivement des indicateurs de respiration, il y a des indicateurs de mots-clés qu'on veut voir figurer autant dans la post-production que dans le ton qu'il va avoir. Des phrases courtes, parce qu'en fait quand vous êtes sur un module de 2 minutes avec un avatar, si vous faites une phrase qui fait 4 ou 5 lignes quand vous la rédigez, c'est beaucoup trop long. Mm-hmm. Voilà, donc il y a toute une technique effectivement qu'on a apprise et appréhendée ensemble au démarrage et qui fait que maintenant, aujourd'hui, nous, on est rompus à l'exercice et on le fait en quelques minutes. Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que vous proposez, du coup, on va dire une formation pour écrire les scripts?
Alors, une formation pour écrire les scripts, pas en tant que telle, puisqu'en fait, on produit avec le client, donc c'est plutôt dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait. Ouais, exactement. Après, le fait de savoir bien faire des modules avatar... comme je disais, on n'est pas plus intelligent que la moyenne, c'est juste que sur cette expertise-là, on a plus de kilomètres au compteur. Donc c'est vraiment l'analogie de...
Oui, c'est votre truc, quoi. Vous,
exactement,
vous maîtrisez.
Si je viens d'apprendre à conduire ou j'ai 10 ans de voiture, bah globalement, je sais à peu près mieux appréhender le sujet et éviter les erreurs. Et donc là, il y a un ticket d'entrée qui est compliqué parce que tout le monde peut avoir la même solution que nous, mais à la fin, les gens y reviennent en disant « c'est moins bien que quand c'est vous qui le faites ». En fait, c'est pareil que Photoshop. En fait, tout le monde peut avoir Photoshop. Si vous n'êtes pas formé, vous allez faire un carré. Donc, c'est pareil avec des avatars. Et donc, aujourd'hui, faire des choses qui sont bien de qualité, fluides, ça nécessite d'avoir donc, la partie entraînement de la machine parce que en fait, ça, c'est bien si la matière première est bien. Et c'est pas juste « je m'enregistre et c'est parti ». C'est un peu plus souple que ça. On anticipe également les évolutions, notamment tout ce qui va être le contrôle de la gestuelle, de l'intonation. Donc, ce qui fait que nous, quand on fait des avatars, on se crée de la matière en avance de phase pour pouvoir avoir plein de gestes, pour pouvoir associer des gestes à des dictions, pour associer aussi une tonalité à certains sujets, parce qu'on sait que de toute façon, c'est choses qui vont arriver bientôt. Bien sûr. Donc, plutôt que de refaire de l'enregistrement après, on aura cette matière. Donc, toute cette philosophie, quelque part, de penser en mode IA, on l'a sur les avatars, mais c'est valable sur les autres métiers de l'agence. Mmh. En fait, on pense au prisme des besoins des modèles d'intelligence artificielle pour être efficient. Et c'est en ça que c'est une expertise en tant que telle. Et aujourd'hui, il y a une évolution des métiers sur le fait que finalement, on voit bien, en fait, le circuit de production Guy-Hockey, des avatars, même du projet, et en fait, c'est un circuit qui est très court. C'est peu de personnes à l'agence et c'est peu de personnes chez Guy-Hockey. Et c'est justement parce qu'on est en circuit ultra court qu'on a un effet d'échelle qui est ultra rapide. Là où ça prend du temps, c'est quand on a des circuits classiques avec plein de parties prenantes et c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'IA permet d'avoir un effet de levier qui est hyper important quand on est sous contrainte. Justement, c'est plus vous êtes sous contrainte, plus vous voyez du bénéfice à l'IA. Quand vous n'avez pas de problème d'argent, de problème de temps, de problème de staffing, pourquoi s'embêter à faire de l'IA et à faire des trucs bizarres? Vous faites comme avant.
Après, qui n'a pas de problème de temps et de staff?
En fait, beaucoup de gens, en fait.
Ah oui,
ouais, ouais, ah beaucoup, ouais, bien sûr. En fait, il y a plein de gens qui sont dans des schémas classiques où c'est ça le process. Et en fait,
oui,
là,
on parle pas. Enfin, je suis d'accord, mais ça pourrait toujours faire gagner quelque chose de l'IA entre nous.
Ouais, mais c'est, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est la réponse évidente que même moi, je me suis dit, mais en fait, c'est
tout
génial,
peut
on peut faire. Mais en fait, il y a plein de choses. En fait, il ne faut pas oublier que souvent, c'est des choses qui peuvent être perçues comme perturbantes. L'IA, si on prend l'exemple de l'image, moi je trouve ça génial qu'on puisse faire des visuels en peu de temps, ouais. Mais il y a des gens qui trouvent pas ça génial du tout.
Bah forcément, leur emploi est menacé.
Oui, puis il y a des gens, ils aimaient faire ça.
Oui, oui.
Donc en fait, c'est-à-dire que moi-même, je suis monté, j'ai gagné en humilité sur ça, ouais. En disant, en fait, ce que moi je vais trouver incroyable, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie que ça se produise, et que pour autant, il faut accompagner ce changement. On peut pas se dire ils ont tort.
Après c'est vrai qu'il y a une notion aussi, c'est l'humain dont on a besoin, mmh. Et certains métiers ont besoin de rester humain.
Et c'est là où il y a un besoin de bien comprendre ce que fait l'IA, où l'IA se situe dans le processus, et de faire de l'accompagnement au changement. Moi ma conviction c'est qu'il y a des choses qui vont permettre un possible qui est incroyable, il y a des choses qui ont de la valeur aujourd'hui qui n'en auront plus demain. Tout comme il y a des choses que l'on fait aujourd'hui ou qu'on ne fait plus aujourd'hui et qui avaient de la valeur avant-hier parce que ça a juste évolué. C'est juste que là, ça se fait sur un temps très court. Et on a besoin que les gens comprennent parce que ça change la manière de faire, ça change la temporalité pour faire, ça change les coûts pour réaliser des choses. Aujourd'hui, vous prenez du streaming live, n'importe quel ado, il va sur TikTok, il se met en live sur Internet. Faire un live sur Internet il y a 10 ans, c'était hyper compliqué, ça coûtait très cher.
Ouais.
Donc en fait, ce rapport à la techno, il a toujours existé. C'est juste que là, on est sur des changements profonds, même quasiment de société, qui se produisent sur un laps de temps qui est de l'ordre de la semaine.
Mmh. Oui, ça va tellement vite, en fait, ça nous dépasse.
Donc ça dépasse, on n'arrive pas à prendre l'info, la digérer, la remettre, qu'on commence à digérer qu'il y a déjà eu une info qui rend obsolète ce que l'on fait.
D'ailleurs, juste avant l'émission, vous m'avez appris plein de choses sur les nouvelles IA que je ne maîtrisais pas du tout, alors je pensais être à jour. Delphine, question, est-ce que les franchisés, le réseau et puis même le grand public vont faire la différence? Est-ce que ça se voit les avatars que vous allez mettre en ligne? Et question, est-ce que vous allez le préciser à chaque fois ou non?
Alors, pour l'instant, on ne l'a pas précisé particulièrement et en même temps, tout le réseau sait, puisque l'information est publique et on en parle très facilement, qu'aujourd'hui sur la plateforme d'e-learning, ce ne sont pas les formateurs mais leurs avatars. Comme c'est, pour l'instant, ça n'est pas encore pour nous un sujet de communication vers le grand public. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre un avatar en interaction avec le grand public. Le jour où potentiellement on fera ça, si on le fait un jour, bien sûr qu'on le précisera. On a fait l'exercice ensemble pour le salon de la franchise, où on a mis un avatar en live sur un écran auquel les gens qui passaient pouvaient poser des questions sur Guy-Hockey ou sur la franchise. Ça, c'était une grande première. Il a été entraîné pour ça. Évidemment, on précisait aux gens que c'était l'avatar et que c'était pas... Là, pour le coup, on avait pris l'avatar de Stéphane Fritz. C'était pas Stéphane, le vrai, qui répondait à leurs questions. Demain, si on l'utilise pour de la communication, on le dira. Aujourd'hui, le réseau le sait, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est transparent pour eux. Ça se voit encore peut-être un tout petit peu sur certaines personnes, parce que pour les besoins des tournages, du tournage de l'avatar des uns et des autres, il était demandé parfois de ne pas avoir de trop grands mouvements, de trop grands gestes. Ouais. Et quand c'est une personnalité qui qui est connue dans le réseau et qui est extrêmement vive, qui bouge beaucoup, etc. Ils vont se dire, dis donc, elle était un petit peu coincée le jour où elle a tourné.
Ouais,
c'est
ça lui
cas,
ressemble
c'est
pas.
Vrai, voilà,
ouais,
ça ressemble
d'accord.
pas complètement, ok. Ouais. Mais ce qu'on disait aussi, c'est que ça avance à une vitesse folle et que potentiellement, dans une semaine, deux semaines ou trois mois, on va avoir la possibilité d'être encore plus naturel. Après, ce qui est important aussi de voir, je rebondis sur ce que disait Mathieu, sur la façon dont ça transforme et dont on s'adapte. Nous, du coup, on a adapté aussi nos formations en présentiel, parce que l'idée, c'est pas de tout avatariser. Bien sûr, on avatarise tous les concepts, tous les gestes, mais derrière, l'idée, c'est de transformer le présentiel pour qu'il n'y ait quasiment que des mises en situation, que des jeux de rôle, que du savoir-être. Et donc, en fait, qu'on ait consulté la plateforme et qu'on se soit approprié la théorie via la plateforme. Mais ensuite, on va aller avec des vrais formateurs maison, se mettre en situation avec ses autres collègues de l'agence ou d'autres agences, et on va aller expérimenter. Ok, t'es en face d'un vendeur, t'es en face d'un acquéreur. Maintenant, comment ça se passe en vrai ?
Bien sûr.
Sur le sujet des avatars, alors aujourd'hui, effectivement, on est tenu de le dire.
Oui, c'est obligatoire.
Point, je fais une micro-point légal. Donc, parce que les avatars rentrent dans la catégorie deepfake.
Ouais.
Alors, on pourrait débattre du bien fondé ou pas. Toujours est-il que c'est comme ça.
C'est, ouais.
Et donc, l'IA Act impose de déclarer à un moment que le contenu que la personne est en train de voir est un contenu qui est fait en IA, etc.
En donc, cas, soit juste en dessous personne. Ou soit l'avatar qui le dit,
par
exemple.
Il faut le préciser. Il faut que
la personne qui regarde
voilà,
soit au courant.
Il faut que ce soit mentionné quelque part. En fait, l'objectif de ça, c'est de ne pas tromper.
Bien sûr.
Dire, cette personne est vraie.
C'est un gros sujet, ça.
Donc, en l'occurrence, il faut que ce soit mentionné. J'ajouterais que la partie lip-sync, donc lip-sync, c'est vous avez une vidéo et vous avez que, on va dire, le mouvement de bouche qui peut s'adapter par rapport, par exemple, à une traduction dans une autre langue, rentre aussi, alors c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on fait avec Guy-Okay, mais cette partie-là où il y a juste la bouche rentre aussi dans la catégorie lip-sync et donc nécessite d'être précisée. Donc ça, c'est valable depuis 2025, c'est une obligation. Alors, beaucoup de gens ne le font pas, mais ça reste une obligation quand même.
C'est obligatoire. Et notamment, il y a aussi des contrats, j'imagine, très encadrés. Quand vous enregistrez, parce que tout se passe en studio, on l'a dit, la première fois, pour créer l'avatar, du coup, on prend la voix, le corps de la personne qui est en studio. Évidemment, il faut que ce soit très clair d'un point de vue contractuel pour pas qu'on puisse utiliser l'image à défaut. Ça, c'est un gros sujet aussi.
Parce qu'en fait, ça rentre. Alors, la voix, ça rentre dans le RGPD typiquement.
Bien sûr.
Donc, on peut pas faire. Alors, il y a la loi et puis il y a.
Il y avait eu d'ailleurs des gros débats avec des acteurs connus.
Je suis très au courant de ce truc-là.
Ça vous concerne. J'ai l'impression.
Ouais, très bien. Mais non, effectivement. Après, encore une fois, c'est-à-dire que il y a ce que l'on peut faire, il y a ce que la loi dit et il y a ce qui éthiquement est souhaitable. Donc, on n'est pas des margoulins, on fait pas n'importe quoi. Reste que quand on utilise la voix de quelqu'un, quand on utilise, bien sûr, il y a des consentements. Encore une fois, ça va évoluer. C'est-à-dire que globalement, là, on fait des avatars de gens qui existent.
Ouais.
Il existe un monde qui n'est pas si lointain, à savoir probablement sur S2, où vous allez pouvoir générer une personne entièrement qui n'existe pas.
Ça existe déjà. Je sais que certains médias dans d'autres pays le font.
Exactement. C'est encore un poil à parfait.
Ouais.
Et moi, mon sujet, c'est moins ce qu'on peut faire pour rigoler. En fait, ce qui me guide, entre guillemets, c'est est-ce que c'est suffisamment quali pour que ce ne soit pas bizarre. Parce qu'en fait, si c'est une prouesse technologique, mais que c'est bizarre, les gens retiennent que c'est bizarre.
Oui, bien sûr.
Et en fait, du coup, vous êtes hermétique au discours alors qu'on est là pour faire passer un message. Donc, le sujet est que ça va de toute façon évoluer. Donc, on a des problématiques de droit. C'est-à-dire qu'avec Guy-Okay, le sujet, il est évident, c'est les vrais formateurs.
Bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Mais avec d'autres clients, on a soit des gens, des collaborateurs, donc là, ils font un contrat. Avec certains, c'est un comédien, parce qu'ils sont pas allés en interne, mais du coup, il y a le droit du comédien, mais c'est en avatar. Très rapidement, on va arriver sur, et je le dis crûment, a-t-on besoin vraiment d'un comédien alors qu'on peut générer une personne qui n'existe pas? Et là, en fait, on pourrait dire, beaucoup plus simple. Il n'y a pas de droit, etc. Et encore une fois, je le dis crûment, parce que quand je racontais ça il y a 2 ans, tout le monde me prenait pour un malade mental. On y est aujourd'hui, ce n'est plus du tout un sujet. Donc en fait, il y a un sujet d'acceptation de l'évolution de la techno qui fait que ces questions-là sont des questions qu'on va devoir tous se poser dans un échéancier qui est très très court.
Qu'on commence déjà à se poser.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est-à-dire que la logique d'avoir des gens synthétiques,
Bien sûr. Pour reprendre,
en fait, il y a 1 an et demi, c'était de la science-fiction, c'était pas naturel, on me disait mais c'est pas moral. Et puis à la fin, les gens se rendent compte qu'en fait, c'est plutôt simple, ça répond à une problématique.
C'est rentable.
Et c'est moins cher. Et du coup, bah là, les considérations sont.
Il y a aussi, je crois que le plus important, c'est quand même le coût. On est quand même dans une période inflationniste, en tout cas, où ça a été inflationniste.
Puis là... c'est simple. Puis c'est simple à faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'avez plus de besoin de. Enfin, ce que disait Delphine. En fait, même quand bien même il y aurait de l'argent à foison, en fait, gérer un tournage,
ouais, sûr,
c'est beaucoup d'heures.
Ouais. Donc, bah, en vous, fait, Delphine, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, ouais, c'est beaucoup de temps gagné.
On est passé de beaucoup d'heures de temps de travail, donc de temps homme, donc d'argent, pour organiser des tournages, rédiger des contenus, etc., à aujourd'hui, on rédige des contenus. Et,
c'est ça. Un coup de fil à Mathieu, le script est rédigé,
modo,
c'est ça, et c'est
ouais,
parti.
Ouais, grosso modo. Et ensuite, c'est du temps homme chez eux, du temps machine et du temps homme, c'est ce que disait Mathieu, avec finalement presque plus de temps homme que de temps machine. Ce qui a changé, c'est l'intervention de l'homme en elle-même, qui n'est plus positionnée au même endroit. Mais en réalité, oui, bien sûr, c'est ça.
Alors, l'émission touche à sa fin. Juste pour finir, parce qu'on va avoir ce genre de questions, en termes de réduction de coûts, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette?
Alors, je vais
sans nous donner des chiffres.
Non, bien sûr. On a divisé par... alors, par exemple, si on prend pour la production d'un module, on a divisé par quasiment par 10 le coût de production d'un module de formation.
Oui. Par 10, d'accord. Ouais. Donc c'est, non négligeable en tout cas.
Oui, non négligeable, je vous confirme.
En plus, et vu la période...
Fois, ça, c'était pas forcément l'objectif premier, même si on est tous d'accord pour dire que notamment sur ces deux dernières années, sur le marché immobilier, on a tous cherché à réduire nos coûts de toutes façons possibles. Il n'empêche que l'objectif premier, c'est ce qu'on disait, c'était produire en masse et produire de façon réactive. Mmh. Et en même temps, quand c'est associé à des coûts divisés par 10 au module, on n'a aucune raison de ne pas
s'en sortir. On n'hésite plus, quoi. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ce sujet très intéressant. On a envie de continuer. Mais l'émission touche à sa fin. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo. À la semaine prochaine.